Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
Il est 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le coup de froid sur le marché des pompes à chaleur. Le prix de l'or est au plus haut. Mauvaise nouvelle pour les entreprises dépendantes. Et puis le gouvernement lance un plan pour la haute gastronomie. Il s'est vendu 40% de pompes à chaleur en moins depuis septembre. La filière attend donc un soutien de l'État car avec la crise du logement, on compte moins de nouveaux propriétaires et donc moins de demandes. Les ministres de l'économie et de l'industrie sont aujourd'hui dans la Somme pour visiter une usine et peut-être annoncer une simplification des aides à la rénovation Zoé Pallier.
30 000 pompes à chaleur sont construites chaque année dans l'usine du groupe Intuis où se rendent aujourd'hui les ministres. Mais depuis quelques mois, les ventes reculent.
Nous enregistrons des baisses de 15% par rapport à 2022.
Éric Baudry, directeur des affaires publiques du groupe.
Nous sommes en pleine crise du logement, d'une part sur le marché de la construction neuve, que ce soit en maison individuelle, et puis le marché du logement collectif, qui est également en retrait à près de 40%. Mais les périodes de crise, elles seront toujours cycliques, donc on imagine une reprise de l'activité à partir de l'été prochain.
Le secteur compte aussi sur MaPrimeRénov', dispositif d'aide à l'achat, plusieurs fois détricoté puis relancé. Il faut une simplification, plaide François de Roche, président de l'association française des pompes à chaleur.
Le marché de la rénovation, c'est quasiment 80% des ventes. Si on n'a pas un dispositif d'aide lisible à plusieurs années, c'est quasiment impossible pour les entrepreneurs professionnels de pouvoir investir correctement et structurer ce marché.
Mais la crise est aussi européenne. Partout, les particuliers subissent l'inflation et les entreprises françaises peinent à exporter. La Commission européenne prépare un plan pour soutenir la filière, plusieurs fois repoussé. Il n'aboutira finalement pas avant les élections du mois de juin prochain.
La France a beau avoir résisté, elle a dû céder. Le contrôle technique pour les deux roues entre en vigueur aujourd'hui. Pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017, il faudra l'avoir réalisé au plus tard le 31 décembre 2024. À la pompe, le prix affiché risque de gagner quelques centimes ces prochaines semaines. Avec le risque d'embrasement au Proche-Orient, l'indicateur est observé. La référence en Europe, c'est le baril de Brent de la mer du Nord. Le prix est à 90,21 $, mais a dépassé en séance vendredi le prix de 92 $. C'était une première de depuis fin octobre. Sur les marchés financiers ce matin en Asie, les cours sont dans le rouge à Hong Kong, -0,79. À Shanghai, on grimpe d'1,21%. Autre conséquence de ces tensions au Proche-Orient, la compagnie allemande Lufthansa suspend les vols vers et depuis Tel Aviv en Israël, Erbil en Irak et puis Amman en Jordanie. Au moins jusqu'à aujourd'hui, les vols vers Téhéran et Beyrouth sont suspendus jusqu'à jeudi. En temps de crise, il y a toujours des valeurs refuges. La plus connue étant l'or. Son cours est au plus aux alentours de 2 400 € l'once. Cet achat illustre d'ailleurs la perspective de baisse de taux et forcément les craintes géopolitiques. Un prix de l'or qui touche également certains industriels. Arnaud Duplessis est gérant d'action thématique chez CPR Asset Management.
La moitié de la demande d'or est liée à la bijouterie. Donc bien entendu, une très forte hausse des cours de l'or va avoir un impact in fine sur le coût des bijoux. Et l'industrie purement électronique représente à peu près 5% de la demande d'or mondiale, c'est-à-dire à peu près 250 tonnes par an. L'impact sera assez marginal, je dirais, puisque la quantité d'or qui est inclus, je dirais, dans la fabrication des appareils électroniques est quand même infime. Autrement dit, le coût de l'or dans la fabrication totale est extrêmement faible. Donc, ça ne devrait pas impacter significativement ce marché, je pense.
Arnaud Duplessis avec Eric Mauban. La bourse n'est pas forcément un repoussoir pour les entreprises familiales. On le voit avec Puig, le groupe catalan de beauté et de cosmétiques veut y faire son entrée, lever 2,5 milliards d'euros, propriétaire de Jean-Paul Gaultier et de Rabanne notamment. Bonjour Mathias Desmarais.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'activité intermédiaire chez Action chez Odo BHF. Alors pourquoi y a-t-il un regain d'introduction en bourse ?
Bah écoutez, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bon, on a vu une bonne performance sur l'ensemble des indices boursiers avec une remontée des marchés suite à un environnement qui avait été assez compliqué avec des incertitudes sur l'économie, des incertitudes géopolitiques et également une remontée assez drastique et rapide des taux d'intérêt. Aujourd'hui, l'environnement est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus de stabilité, ce qui est plutôt propice à un retour des introductions en bourse. Depuis 5 à 6 mois, des deux côtés de l'Atlantique, on a eu des introductions emblématiques. Arm, coté sur le Nasdaq, sur le secteur des technologies, qui était une société anglaise. On a eu aussi l'introduction en bourse de Birkenstock. En Europe, on a eu quelques sociétés introduites en bourse récemment. Je noterai avec plus ou moins de succès, d'ailleurs, comme Douglas, notamment en Allemagne, qui est un peu un concurrent sur la partie distribution de produits de beauté. Et effectivement, le pipeline aujourd'hui est assez fourni avec plusieurs opérations qui sont en cours de réalisation. On a eu aussi l'IPO de Renk en Allemagne aussi dans le secteur de la défense.
Mais alors pourquoi les sociétés familiales réussissent si bien en bourse ?
Écoutez, je pense qu'il y a deux raisons principales. La première liée à une stabilité au niveau de l'actionnariat, parce que ces sociétés familiales sont contrôlées donc par les familles fondatrices le plus souvent, et que donc elles ont des stratégies vraiment de long terme qu'elles déroulent. On a plein d'exemples en Europe, et donc elles déroulent sur le long terme avec un certain succès. Donc vous avez cette première étape, on va dire, de stabilité actionnariale qui limite quand même la volatilité en bourse. Et la deuxième chose, effectivement, c'est aussi tout ce qui est stabilité managériale dans beaucoup d'entre elles, où vous avez des familles qui restent, on va dire, actionnaires de long terme et très impliquées dans la gestion de l'entreprise au jour le jour.
Mathias Desmarais dans le journal de l'économie, merci à vous. C'est une spécialité française reconnue dans le monde entier. Il n'est pas question que cela change. Le gouvernement veut soutenir la gastronomie, éviter d'être battu par les autres nations dans les classements internationaux, comme on le voit assez régulièrement ces dernières années. La France est notamment cinquième au Bocuse d'Or. Il faut donc agir, Lucie Dupressoir.
C'est la mesure phare de ce plan, la création d'un centre national de la gastronomie française près de Lyon, à l'image de Clairefontaine pour le football, dit le gouvernement, pour préparer les équipes de France des métiers de la bouche aux concours internationaux. Les jeunes talents au cœur du plan, avec aussi ce réseau international des écoles de la gastronomie que le gouvernement veut mettre en place, une sorte d'Erasmus des écoles de cuisine, mieux référencées auprès des ambassades. Bercy va également accompagner des projets, une dizaine de chefs qui voudront s'implanter à l'étranger et plus de 20 lauréats qui mettront en avant la cuisine française pendant les Jeux de Paris. Une excellente opportunité pour Thierry Marx, chef étoilé et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Aujourd'hui, on est en compétition avec des chefs japonais, italiens, espagnols. C'est pas un championnat de France, hein, c'est un championnat du monde.
Pour le chef Marc Vera, c'est pourtant en France que le gouvernement devrait mener le combat.
Il manque un volet sur l'éducation et la découverte dans les écoles. Le problème de fond, c'est que le premier restaurateur de France, c'est quoi ? C'est McDo. L'initiation, l'éducation au goût qui se perpétue à travers les générations est en train de se perdre parce que l'alimentation change.
Pour son plan, le gouvernement va mettre 1,5 million d'euros sur la table.
Lucie Dupressoir. Il est 6h56, c'était le journal de l'économie. Dans 30 secondes, le retour...